un mardi matin en France. Vallonnée, plate, tumultueuse et souple, contradictoire et rassurante, paradoxale et de proximité, intelligente et têtue, ombrageuse et gaie, souple, colorée, métissée, généreuse et refermée derrière les volets clos. La France. La France, depuis ta naissance, t'a accueilli, t'a nourri, t'a bercé, t'a lavé, t'a blanchi, a passé tes vêtements dans des machines à 20, 30, 40, 60 et 90 degrés pour les textiles les moins fragiles. Elle t'a donné dès ton enfance le lait de ses vaches, de ses mamans, de ses animaux, de ses humains, de tous ces gens qui donnent de la nourriture qu'ils ont dans le corps, qui le partagent avec leurs enfants. Aujourd'hui, tout ça, il va falloir le rendre. Alors, présente-toi aux élections présidentielles, toi aussi. Vas-y, fonce, va vers ton destin. Unis ton destin à celui de ton pays et sois élu, la France. Bientôt un pays avec 60 millions de présidents de la République. Enfin, cette fraternité au pouvoir, enfin l'armée mexicaine, que des généraux et plus de fantassins. Oh, ah pardon, c'est bon, bonjour. Bonjour à le journal de Thierry Paris.
Salut Edouard et salut tout le monde. Quelques 150 à 200 personnes issues pour la plupart de la communauté chinoise se sont rassemblées hier soir devant le commissariat du 19e arrondissement de Paris. C'est assez rare que cette communauté défile de la sorte pour protester donc contre la mort d'un homme de 56 ans tué dimanche à son domicile lors d'une intervention de la police qui a mal tourné. La famille parle de bavure. Une voiture de la police a été incendiée. Le rapport de force en Guyane, la deuxième plus grande région française, observe donc une grève générale depuis hier. Grève générale illimitée. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a annoncé envoie sur place d'une délégation ministérielle avant la fin de la semaine. Des marches sont annoncées, des manifestations sont annoncées pour aujourd'hui, notamment à Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni. Pénélope Fillon doit être entendue au pôle économique et financier de Paris. Dans la journée, l'épouse de François Fillon, qui pourrait être mise en examen, doit être interrogée sur les deux emplois qu'elle a cumulés, à savoir assistante parlementaire et salariée de la revue des Deux Mondes pour près de 9000 euros bruts. Le principe de préjudice d'angoisse a été reconnu par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme. C'est la première fois que le préjudice d'angoisse, c'est-à-dire la reconnaissance d'une souffrance générée par la conscience d'une mort imminente, est reconnue pour des victimes d'actes terroristes. C'était une demande des avocats des victimes. Le fonds a toutefois souligné qu'il ne tranchait pas à ce stade la question du champ des personnes éligibles ni les modalités de sa mise en œuvre. La reconnaissance de ce préjudice pourrait coûter plusieurs centaines de millions d'euros supplémentaires. Le fonds indemnise plus de 5000 victimes des attaques terroristes depuis 2015 pour un coût total estimé à 600 millions d'euros. Le Conseil de Paris a voté l'installation d'une paroi en verre par balle tout autour de la Tour Eiffel. Le projet de sécurisation du monument a été adopté à l'unanimité. Il devrait être achevé au deuxième trimestre 2018 pour un coût de 20 millions d'euros. Le Conseil a voté deux amendements concernant la réversibilité du dispositif proposé par les groupes communistes et écologistes. Dispositif qui sera rediscuté dans 4 ans. Médecins du Monde et Médecins Sans Frontières partent à l'assaut du brevet du Sofosbuvir. C'est un traitement innovant contre l'hépatite C, facturé 41 000 euros par patient à la sécurité sociale, alors que des versions génériques tout aussi efficaces existent au prix de 220 euros. L'équipe de France de football va rencontrer l'Espagne ce soir en match amical au Stade de France, un match qui va bénéficier de l'assistance vidéo. C'est une première pour les Bleus en France. Et puis sachez que l'Islande a connu un pic de naissance le week-end dernier. Est-ce que vous savez pourquoi ?
Non !
Quelqu'un ?
Non.
Pas d'électricité,
eh bien,
à un moment donné ?
Non. Ah. Non, mais c'était... Bah, déjà, il y avait
alors
une réponse.
Alors, qu'est-ce qui s'est
Thomas.
Passé il y a 9 mois ?
Non, il y a tout juste 9 mois, ça. Le pays se qualifiait pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de l'Euro de football en battant les Anglais 2-1. Et donc, le lien... Bah, je crois que c'est ça.
Merci Thierry Paret pour ces lumières. Vous nous en dites plus sur l'être humain, bien sûr. François Rollin, vous avez écouté toute cette tranche d'information et je voyais...
Et vous me devez quelque chose parce que ça m'a beaucoup angoissé et donc je voudrais un petit préjudice d'angoisse.
Bien sûr. Mais il y avait surtout dans vos yeux, dans votre comportement physique, il y a un côté, on vit dans un monde de dingue. C'est ça que vous vouliez signifier.
Ah bah oui, sur tous les chapitres. J'ai trouvé que le comportement de l'homme s'apparente au comportement du dingo à tous les égards.
Dingo, vous disiez. Vous voilà. Ouh là 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 là.
Enfin, je n'ai pas dit à haute voix.
Non,
je suis quand même respectueux de Thierry Paret. Mais dans mes yeux,
vous
voyez
ça. Et dans votre corps aussi. Alors les gens parfois ne regardent pas bien la radio, mais vous voyez François Rollin, il est agité un petit peu. Il était pris soubresaut et le corps faisait, si je me permets d'interpréter en langage, il fait ouh là 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 là.
Oui, c'est vrai. Je suis comme ça, je réagis, je suis spontané. J'ai toujours été un garçon spontané. Je dis ce que je pense que je dis. Et mon corps.
Ouh là là, et alors, en revanche, Thomas Baumgartner, vous avez une force tranquille. Vous étiez là, vous êtes à la tête d'un. Vous avez un 3,5 tonnes, vous avez votre camion qui avançait comme ça. Vous étiez en marche arrière et vous.
En faisant le créneau en même temps.
On est bien, on n'est pas obligé de parler tout le temps, on peut garder l'antenne pour essayer de...
Voilà. Non mais quand même, là, il était vachement bien le journal de Thierry Paret. Hein. Il est bien tous les jours, mais là je trouve qu'aujourd'hui il était spécialement bien. Notamment à cause que c'était du dingo partout.
Bon, allez, à tout de suite.
7h-9h, Édouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte.
Ce qu'il y a, Roland, avec la publicité Engie, vous étiez tout...
Oui, parce qu'il donne, il y a une date... non, c'est pas celle-là. Non, parce que j'ai eu deux problèmes dans la pub, Edouard, là, je vous le cache pas.
Oui.
Le premier, c'est que dans la publicité de Dacia, il y a une date limite pour faire je sais plus quoi, et j'ai pas réussi à la retenir.
Oui, donc c'est foutu. Si
donc il faudrait qu'on la repasse, qu'on repasse la pub dès que possible.
Je suis sûr qu'un peu de chance, elle va revenir. Vous pensez que ça peut être périmé, une Dacia, comme un yaourt?
C'est ce que j'ai compris.
Je comprends bien.
Et puis, Engie, là...
vous étiez pas...
Ben, ça m'a choqué, ce garçon, quoi, qui range pas ses affaires, il nettoie pas ses affaires de sport, il passe pas l'aspirateur, il attend le week-end et tout le monde a l'air de trouver que c'est bien, sous prétexte que l'électricité est moins chère.
Ouais, vous étiez
mais
pas...
non, moi, non. Je veux qu'il range sa chambre au jour le jour. Hein. La maison, c'est pas un bordel.
Et puis,
voilà, c'est tout.
Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de concurrence. Si vous vous achetez pas d'Engie, vous retrouvez dans le noir, quoi.
Ah bah ouais, mais oui, moi, un gamin, moi, ça passe l'aspirateur, ça lave ses affaires de sport, et puis ça branche la console de sa petite sœur.
Je vais vous mettre un peu de musique, quand même. Il y a une ébullition en studio ce matin, plus près de toi, parce que tout le monde arrive chargé d'infos, d'envie d'échanger, de dialoguer. Mettez peut-être les connoisseurs, bien entendu. Les connoisseurs, ils sont gourmands de tout, ils se repaissent de tout, ils se désaltèrent à la source de la vie, à la source de l'information. Tout fait information pour eux, de ce qu'ils lisent dans le journal, des faits divers à la politique, du voisin dans le métro, jusqu'à ce caddie croisé seul dans la rue. Marie Misset, à tout seigneur, tout honneur, bonjour.
Bonjour.
Vous avez toute la presse, puisque vous préparez votre revue de presse de 8h20.
Toute, elle est toute là, regardez.
Tout est là, tout est en note de frais. Et qu'est-ce que vous avez pour nous, qu'est-ce que vous avez pour nous, là, ce matin, qui vous a sauté aux yeux comme
hors presse, ou quasi, c'est alors, on en a pas mal parlé ces derniers jours, c'est America, c'est une revue qui a été lancée par François Bunuel et Eric Fotorino.
Vous en avez parlé où et quand? Moi, je n'étais pas là.
Dans les médias, en
général. Moi, j'étais pas là.
Ça s'appelle America, ils veulent en sortir 4 par an pendant les 4 ans de la présidence de Trump. Et donc c'est le casting est assez exceptionnel, puisque là il y a 50 pages avec Toni Morrison, prix Nobel de littérature. Il y a Ta-Nehisi Coates qui avait écrit Lettre à mon fils, qui est un écrivain noir américain militant, qui a été reçu plusieurs fois par Barack Obama, qui a écrit tout un texte sur la présidence Obama. Et puis il y a cet article assez passionnant de Louise Erdrich, qui est une amérindienne américaine, qui est aussi assez connue aux États-Unis et qui raconte, vous savez, ce barrage à Standing Rock contre la pipeline qui devait avoir
Dakota.
Lieu et transporter du pétrole, et contre lequel beaucoup de tribus indiennes se révoltent parce que c'est sur un lieu sacré et que en plus, eh bien, ça risque de contaminer les eaux sur plusieurs générations. Et alors, elle raconte plusieurs choses que je savais pas du tout. Déjà qu'il y a beaucoup de vétérans de l'armée américaine qui sont amérindiens, parce que c'est la minorité qui proportionnellement s'investit le plus dans l'armée aux États-Unis, ce qui fait que à Standing Rock, dans ce camp pour manifester contre cette pipeline, eh bien, il y a beaucoup de vétérans de l'armée américaine qui viennent notamment en solidarité avec leurs anciens condisciples amérindiens. Donc voilà, ils sont nombreux, ils disent des choses comme je viens ici pour me battre pour mon Amérique, je suis ici à cause de la violence d'État au nom d'une entreprise commerciale, par exemple, ça c'est Matthew, un vétéran de Floride. Et voilà, c'est son journal à Louise Erdrich pendant quelques jours après l'élection de Donald Trump. C'est assez passionnant.
C'est Matthew, donc on a juste son prénom. Vous pensez qu'il n'a pas voulu... Vous pensez que...
Bah, Matthew qui vient de Floride. On a aussi là d'où il vient. Là d'où il vient.
Ouais, on n'a pas son nom de famille, parce que si on dit Matthew, après, je ne sais pas, moi, je n'y crois pas trop quand il n'y a que le prénom.
Je suis désolée. Il y a aussi Brandy Paisano, une indienne, voilà. Laguna Pueblo du Nouveau-Mexique, qui a servi dans l'US Navy. Et là, vous êtes content, il y a le nom de famille.
Oui, je vous remercie beaucoup. Thomas, vous êtes... Attendez, je m'étire un tout petit peu, parce que j'ai des baisses de régime, parfois, au milieu de ma propre phrase. Thomas, qu'est-ce que vous auriez ce matin ?
Alors, ben, c'est un peu, ça, c'est un peu moins loin, mais c'est dans la série, et c'était quand même vraiment mieux avant. C'est un article dans Les Échos. Dans Les Échos, autour d'une exposition qui se tient au pavillon de l'Arsenal à Paris, autour du Paris d'Haussmann, du baron Haussmann. Et paraît-il, les immeubles construits par Haussmann ont toutes les vertus. C'est une boîte à outils pour les solutions d'avenir, pour les urbanistes aujourd'hui. Apparemment, les immeubles d'Haussmann font preuve de permettre la densité, la mixité, la connectivité, la marchabilité, je ne sais pas ce que c'est, la mutualisation. La réversibilité.
C'est bien de dire. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que c'est.
Non,
pas,
la marchabilité, il y a des guillemets. Non, bah, j'ai pas eu le temps. Mais voilà. Et donc, voilà. En fait, ça pourrait être un modèle de mixité. Enfin, bon, apparemment, Paris est la ville la plus dense, une des villes les plus denses au monde. Et malgré tout, on arrive quand même à vivre ensemble parce que les immeubles haussmanniens permettaient de vivre à différents.
C'est les immeubles haussmanniens.
Différentes classes sociales.
C'est plutôt les immeubles avant où il y avait l'artisan rez-de-chaussée, le bourgeois au premier.
Les immeubles haussmanniens, avec la profession libérale au premier étage, etc. Voilà, il y avait au même endroit un mélange de gens. Alors, il se trouve que là, c'est aussi ils sont basés sur les datas, sur les données pour permettre de se dire ça. Donc, bon, ça mérite d'y jeter un coup d'œil. Et il se trouve que c'est quoi la suite? Alors, voilà, est-ce qu'on va continuer à utiliser les immeubles haussmanniens? Il n'y a pas la réponse à ça. Par contre, ce que disent les urbanistes, c'est qu'il faut continuer à imaginer des endroits vides qui ne servent à rien parce qu'ils pourront servir à quelque chose plus tard. Par exemple, le métro aujourd'hui sert à passer des lignes téléphoniques. C'était pas prévu au départ. Donc, faut aussi prévoir dans la ville du futur des choses qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui.
Des hasards, comme
dans
ça,
les échos.
Des mystères. Oui. Très bien. Roland Castro, il parle très bien de tout ça aussi, de laisser des zones un peu interdites dans les villes, des zones, des friches. Oui, François.
Oui, c'est
Roland.
Ce que je fais depuis très longtemps dans mon cerveau. Je laisse des zones vides en attendant qu'il y ait quelque chose qui vienne s'y installer.
Bon,
ça va pas bien vite. Non, c'est tranquillou.
Mais ça fait des chutes de loyers après aussi, c'est ça le problème.
Ça fait des espaces vides qui pourront se remplir.
Oui, et plus tard.
C'est réjouissant. Ouais. Voilà,
vous êtes en travaux, hein, je l'avais signalé.
Voilà.
Tito, oui.
Ouais, alors moi je vais vous parler d'un médicament qui s'appelle le Constipatiliophilizatis, c'est un dessicateur puissant qui a pour effet de transformer les selles et les excréments en poudre inodore.
C'est dingo.
Hein, enfin, quel est l'apport? C'est dans quoi? Pourquoi ce matin?
C'est comme ça va être pratique pour les mamies qui promènent leur chien, par exemple, tout ça, etc. Toi, tu donnes ce cachet avant.
Bon.
Et flouf.
Pour le oui, moi, ça, des commentaires ou pas? Non.
Ça m'inquiète un peu.
Marie?
Ça m'inquiète un peu.
Oui, inquiétude.
Est-ce qu'on peut goûter le produit ici? À
oui, gourmandise à gauche.
Alors, il n'y a pas grand-chose à droite.
Et ben, pose au centre. Merci. J'étais en train de parler à François Rollin de météo, c'est pas des choses assez ennuyeuses, mais heureusement, nous revoilà. Bonjour Christophe Payet.
Bonjour.
Christophe, vous êtes notre expert nouvelle technologie, est-ce que ça vous va comme titre?
Ça me va très bien.
Est-ce que vous allez faire éditer des cartes de visite avec cet intitulé, ou est-ce que sur les réseaux sociaux, vous allez aussi sous-titrer votre nom avec cette appellation?
C'est une bonne idée, oui, effectivement.
De quoi nous parlez-vous aujourd'hui, cher Christophe?
Je vais vous parler des liens entre Internet et la drogue, parce que lors de ma dernière chronique, Thomas Baumgartner m'a lancé une forme de défi, puisque j'évoquais très rapidement les liens entre l'origine d'Internet et le LSD.
Oui.
Et donc vous m'avez suggéré de faire une chronique sur Internet et la drogue, donc voici une chronique sur Internet et la drogue.
Il a relevé le défi.
Voilà, je vais vous démontrer en fait le lien positif et étroit qu'il y a entre Internet et la drogue, et la façon dont la drogue a toujours été un moteur de l'évolution d'Internet. C'est-à-dire que dès l'origine d'Internet, alors effectivement au départ c'est une technologie militaire, ARPANET, mais en fait elle a très rapidement été réappropriée par les communautés hippies. Alors notamment le groupe des Merry Pranksters, c'est un groupe de pionniers du mouvement hippie qui s'est constitué autour de Ken Kesey, l'auteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Eh bien, c'est les protagonistes d'Acid Test de Tom Wolfe. Eh bien, parmi ces Merry Pranksters, il y avait un type qui s'appelait Stewart Brand, et qui, si l'on croit la biographie qu'a écrit Fred Turner aux sources de l'utopie numérique, eh bien Stewart Brand a été justement la personne qui a amené le LSD dans les laboratoires de recherche sur l'informatique et qui a introduit la micro-informatique chez les hippies. Pourquoi? Comment? Parce que les hippies étaient tournés vers l'individu, l'esprit, l'émancipation, la créativité, et en fait toutes les promesses qu'ils recherchaient dans le LSD, ils vont le rechercher dans l'ordinateur individuel. C'est d'ailleurs Stewart Brand a écrit dans Rolling Stone en 72, le micro-ordinateur est un nouveau LSD. C'est-à-dire qu'il recherchait la place centrale de la communauté, de nouvelles façons de se lier aux autres, de nouvelles formes de subjectivité. Et tout ça, tout ce qu'ils cherchaient dans la drogue, ils se sont dit, on peut le trouver dans le micro-ordinateur individuel et dans la façon de se connecter grâce au réseau.
Donc vous voulez dire que donc au fond Internet est censé créer un flash, parce que moi je vois pas l'effet du LSD. Je crois que ça isolait plutôt que ça regroupait.
Non, effectivement, en fait, l'idée c'est de pouvoir se regrouper de nouvelles façons d'échanger, de voir l'autre, de se voir soi-même. Et d'ailleurs, Ken Kesey et Stewart Brand ont organisé des trip festivals qui étaient un mélange de prises de LSD, de musique de hippie type Grateful Dead et de happening psychédélique multimédia avec des technologies stroboscopiques, etc. Donc en fait, la technologie et la prise de drogue étaient totalement liées dans ces communautés hippies. Et d'ailleurs, les hippies avaient un intérêt fort plus largement pour toutes les théories des systèmes d'information, pour Marshall McLuhan, pour la cybernétique. En fait, ils s'intéressaient aux façons d'échanger l'information et de repenser l'interaction, en fait. Alors, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment où c'est essoufflé le mouvement hippie, parce que les dérives sectaristes, les disputes, etc., en fait, ces communautés se sont tournées vers les communautés virtuelles, vers les premiers forums. Et Stewart Brand, en 85, a créé une des premières communautés virtuelles, bien avant Second Life, bien avant Facebook, c'est le All Earth Electronic Link, le WELL. Et cette communauté virtuelle a été le refuge de nombreux hippies au moment de l'essoufflement du mouvement. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cette relation entre drogue et Internet? Eh ben, on peut démontrer qu'en fait, la consommation de drogue aujourd'hui en ligne est toujours un terrain d'expérimentation sur le web. Et là, en fait, on va parler du Darknet. Alors, le Darknet, petit rappel, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire c'est la partie du web qui est invisible, qui est non référencée sur les moteurs de recherche et à laquelle on accède notamment par des navigateurs anonymisés comme Tor, et sur laquelle il y a un certain nombre de plateformes qui s'adonnent à des activités illégales, notamment mais la vente de drogue. Mais pas que. Sur ce Darknet, donc, on peut trouver des sites sur lesquels on peut acheter de la drogue. Il y avait le plus connu Silk Road qui a fermé en 2014. Aujourd'hui, il y en a d'autres. Alphabet Market, ainsi qu'un...
On peut aussi trouver des lanceurs de couteaux tchétchènes. On n'est pas obligé.
Voilà, effectivement.
Mais pas que.
On trouve énormément de choses.
Pas que.
Et on peut considérer que le Darknet est, à bien des égards, un modèle pour le web tout entier, pour l'avenir du web. Pourquoi? Notamment pour ses protocoles de communication, c'est-à-dire son anonymat généralisé et sa décentralisation. En fait, sur le Darknet, on a nécessairement recours au cryptage et à une technologie qu'on appelle la blockchain. Je vais vous expliquer, mais en gros, aller sur le Darknet pour acheter de la drogue, entre autres, mais pas que, c'est sans doute la meilleure éducation possible au numérique, parce qu'on est obligé d'utiliser un navigateur anonymisant comme Tor, voire encore mieux d'utiliser un système d'exploitation anonymisant. Pour communiquer, on utilise des clés PGP, c'est-à-dire la messagerie cryptée. Mmh. On paye en Bitcoin, le Bitcoin qui s'appuie donc sur une technologie qui mériterait une chronique tout entière, qui s'appelle la blockchain. C'est vraiment considéré comme la technologie d'avenir aujourd'hui, parce que c'est une technologie de transmission d'informations qui est totalement transparente, totalement sécurisée et surtout totalement décentralisée.
Et comment on part d'argent réel avec cet argent virtuel qui s'appelle le Bitcoin? Quel chemin on...
Voilà. Alors, cet argent virtuel, ben, on va l'acheter sur des places de marché et il va se transformer en argent virtuel.
Mais c'est vous êtes en train de décrire ce qu'était le web il y a 15 ans, grosso modo. Le web qui n'était pas le dark web ou le deep web à ce moment-là.
C'est ça, mais ce web qui a été corrompu, entre guillemets, par ces questions de protection des données personnelles, de la vie privée, etc. Ce web utopique, ce web neutre, libre, en fait, on le retrouve aujourd'hui sur le Darknet, effectivement.
Et le meilleur moyen d'être encore connecté à ce web initial, c'est d'aller chercher de la drogue.
Voilà, c'est ça.
C'est ce que vous êtes en train de dire.
Exactement.
Est-ce que c'est vrai que le Sénat américain a laissé passer une loi qui fait qu'on peut racheter tout le passé de recherche sur Internet d'un citoyen?
Ce sera l'objet d'une prochaine chronique.
Exactement.
Donc là, au fond, ce matin, 7h26, j'ai incitation à se droguer par Christophe Payet?
Absolument pas.
Très bien.
Attention.
Non, c'est meilleure connaissance de la technologie, c'était
exactement.
Ça
exactement.
Ça n'a rien à voir. De toute façon, si quelqu'un doit aller en tôle, ça sera Tito. Merci.
7h-9h, plus près de toi. De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi.
On comprend pas tout, mais c'est bien.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Des miaou, des wawa, des cotes.
Tous les animaux de la ferme sont là.
Il paraît qu'ils font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Édouard Baird.
Très 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 grosse énergie ce matin dans le studio de Plus
Allez,
près de toi.
Les infos, ouais,
les infos, Thierry Paré, vous êtes prêts?
Ah, on est prêts. C'est rare de voir la communauté chinoise de Paris se mobiliser de la sorte. Environ 200 personnes issues pour la plupart de la communauté donc chinoise se sont rassemblées hier soir devant le commissariat du 19e arrondissement de Paris. Il y a eu des affrontements. 3 policiers ont été blessés. Une voiture de police a été incendiée. Il s'agissait de protester contre la mort d'un homme de 56 ans tué dimanche à son domicile lors d'une intervention de la police qui a mal tourné. La police qui parle de légitime défense quand c'est une version qui est contestée par les proches de la victime. Le rapport de force en Guyane, la deuxième plus grande région française, observe donc une grève générale depuis hier. Grève générale illimité. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a annoncé l'envoi sur place d'une délégation ministérielle avant la fin de la semaine. Des marches sont annoncées aujourd'hui, notamment du côté de Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni, les plus grandes villes de la Guyane.
C'est le seul département français où il y a un poste de fonctionnaire qui s'appelle piroguier. Parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires se rendent au travail en pirogue. C'était mon petit apport à l'information. Je retourne.
Mais c'était important, c'était une info. Pénélope Fillon doit être entendue aujourd'hui au pôle économique et financier de Paris. L'épouse de François Fillon, qui pourrait être mise en examen, doit être interrogée sur les 2 emplois qu'elle a cumulés, à savoir assistante parlementaire et salariée de la Revue des Deux Mondes. Le principe de préjudice d'angoisse a été reconnu par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme. C'est la première fois que le préjudice d'angoisse, c'est-à-dire la reconnaissance d'une souffrance générée par la conscience d'une mort imminente, est reconnue pour des victimes d'actes terroristes. Le Conseil de Paris a voté l'installation d'une paroi en verre pare-balles tout autour de la Tour Eiffel. Le projet de sécurisation du monument a été adopté à l'unanimité. Son coût, 20 millions d'euros.
Ce qui n'est pas clair dans cette info que j'ai déjà entendue à 7h dans le journal de Thierry Paré, c'est jusqu'à quelle hauteur cette paroi en verre?
Ah, je ne sais pas. Voilà. Effectivement, mais je crois que c'est assez haut quand même.
Elle ne va pas être aussi haute que la Tour Eiffel, sinon ça serait très étonnant.
Au moins aussi haute que le mur de Trump.
Vous avez apprécié mon intervention dans le journal de Thierry Paré? Commencez à envoyer vos mails et vos appels à Radio Nova.
Le vétéran de la lutte anti-apartheid, Ahmed Katrada, compagnon de cellule de Mandela dans la prison de Robben Island, est décédé à Johannesburg. Il avait 87 ans, ancien député, conseiller du président Mandela pendant son seul mandat à la tête de l'Afrique du Sud. Entre 94 et 99, il faisait partie du premier cercle des dirigeants historiques du Congrès National African, c'est-à-dire de l'ANC. Le nord-est de l'Australie essuyait cette nuit en fait, les pluies torrentielles et les vents violents accompagnant le cyclone débit qui a provoqué l'évacuation anticipée de milliers d'habitants. Ça va se passer beaucoup mieux en France, comme va nous le dire Tito dans un instant. L'équipe de France de football va rencontrer l'Espagne ce soir en match amical au Stade de France, match qui va bénéficier de l'assistance vidéo. C'est une première pour l'équipe de France en France. Et puisqu'on parle football, sachez que le stade Jean-Bouin d'Angers va être baptisé stade Raymond Coppa. La décision a été votée à l'unanimité hier soir. Rappelons que Raymond Coppa, qui est décédé le 3 mars dernier, a commencé sa carrière à Angers, où vous nous écoutez sur le 89.6.
Très bon ça c'est très faible. Non mais là vous avez dit un truc, vous avez dit comme va vous le dire Tito. Ben oui, mais si vous vendez la mèche, mettez-vous à la place de Tito qui a déjà pas énormément d'espace pour s'exprimer. Si vous lui bouffez le suspense, moi je mens Tito, après il va ruer dans les brancards. La météo de Tito.
Aujourd'hui, s'il neige à Moscou, on s'en fout. L'important, c'est nous, il y a du soleil. Des nuages fous sur la France. Oh là là là, et tout. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, les températures seront à Amiens de 8 à 18, à Avignon de 8 à 21, à Beauvais de 8 à 18, à Bordeaux de 6 à 20, à Boulogne-sur-Mer de 9 à 13, Clermont-Ferrand 5 à 18, Corté de 3 à 17, Marseille de 7 à 18, Montpellier de 9 à 18, Paris de 8 à 18, Pau de 6 à 20, Tours de 6 à 17, Copenhague de 7 à 28. Elisa, cherche-moi des coups, Elisa, les autres on s'en fout. Lolaï, 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 lolaï.
Vous ne vous oxygénez pas assez pendant la météo, ce qui fait que vous la finissez un peu rouge à mon goût.
J'ai toujours été un petit peu rouge.
A tout de suite, on rejoint tout de suite les rues de Toulouse avec notre ami Jacques Souvent. Merci.
Je suis à l'arrêt de bus avec Sophie qui part pour Marseille.
et qui rêve d'être photographe en Antarctique.
Bah, y a pas de raison, oui, pourquoi pas. Allô ?
Bonjour.
Bonjour Sophie. Je le note moi parce que j'ai des cases à remplir là pour le. Vous êtes photographe.
Ah, je peux remplir des cases ?
Non, non, mais c'est parce que j'envoie après des trucs de travail, des demandes. Donc vous êtes photographe, mais en Antarctique.
D'accord, j'aimerais bien. Pour l'instant, je ne le suis pas là. Je suis à Toulouse. Pour le...
Alors non, mais il y a. Alors Toulouse, vous allez à Marseille. De là, vous prenez le bateau, le Jean-Bouin, qui arrive en Antarctique. Dans un... Non, le problème, c'est que vouloir un métier et une région, c'est comme le type qui voulait être chanteur d'opéra à 14 heures dans la Sarthe. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être un peu souple. Il faut être souple, Sophie, comprenez-moi.
Je suis souple. Mais...
Quelle est la priorité pour vous ? C'est l'Antarctique ou la photographie ?
L'Antarctique, ça fera partie de la photo, quoi. Pour l'instant, c'est la photo.
C'est là où je voulais en venir, Sophie. Est-ce que vous voulez aller en Antarctique pour pratiquer votre métier de photographe, ouais, ou vous voulez réaliser des photos de l'Antarctique ?
Aller en Antarctique pour de la photo.
D'accord. Donc c'est juste un lieu pour faire des photos. Donc une fois en Antarctique, vous pouvez tout à fait faire des photos de mariage en Antarctique, des photos de baptême.
Ouais, carrément. Mais que quand c'est dehors.
Alors, donc vous voulez bien vous couvrir. Donc ce qui vous intéresse, c'est prendre des photos dans des conditions extrêmes.
Exact.
Bon, alors, moi, il y a une région qu'on appelle la Petite Sibérie dans le Jura. On va vous y essayer un mois déjà. Hein. On va vous mettre chez Stévenin là-bas. C'est les températures les plus froides de France. Moi, je vous essaye un mois là-bas. Je vous fais faire deux, trois baptêmes.
Les mariages et les baptêmes, c'est pas trop mon truc. Limite en Antarctique, ça me va, quoi. Mais
Alors, qu'est-ce qui vous plaît en photo, Sophie ?
Pour moi, c'est l'eau.
Vous voulez photographier de l'eau, mais du point de vue par en dessous, par au-dessus, au fil de l'eau ?
Par au-dessus, par en dessous, des gouttes qui coulent, des flaques, des.
Je le note, ça. Ok, photographier de l'eau, région indifférente, parce qu'en Antarctique, vous savez que l'eau est gelée, donc vous n'aurez pas l'occasion de photographier l'eau, ce sera des photos de glace.
Il y a quand même de l'eau, ouais, mais du coup, il y a quand même beaucoup d'eau.
Bon, alors vous voulez, vous voulez une région pluvieuse, vous irez, Sophie ? Vous voulez vous mettre sous la goutte de pluie, du point de vue de...
Si jamais je tombe là-bas, oui.
Vous aimez l'eau pétillante, l'eau plate, l'eau salée, l'eau douce ?
Celle qui me tombe dessus.
Alors, je pense qu'il pleut plutôt de l'eau douce, a priori, sauf dans des régions très, très acides. Oui. Écoutez, oui. Sophie, moi, je crois qu'il faut un tout petit peu préciser votre demande et on revient vers vous.
Super, merci beaucoup.
On vous embrasse très fort. Salut.
7h-9h, Édouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi, une émission extrêmement racoleuse.
En effet, avec Thomas Baumgartner aujourd'hui, Thomas qui est un grand lecteur de Psychologie Magazine s'est intéressé à cet appel des psys aux politiques.
Oui, le programme des psys, 15 propositions aux candidats, c'est en Psychologie Magazine du mois d'avril, ça tombe bien. Un mois plus tard, ce serait peut-être trop tard. 34 psychothérapeutes.
Excellent. Vous voulez dire que ça serait après les élections.
Rapport au calendrier.
Très bon.
Voilà.
Très bon.
34 psychothérapeutes d'origine diverse signent un programme, donc un appel aux candidats à la présidentielle. Je remercie. Serge Tisseron, Charles Rochman, Francis Bismuth, Serge Effet, Samuel Doc, entre autres. Et vous, Fabienne Crémer, bonjour.
Eh oui, que moi.
Voilà.
Fabienne Crémer, vous êtes psychanalyste. Vous êtes. Les gens embrouillent parfois psychologue, psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute, rappelons.
Moi, je suis psychanalyste. Je suis médecin de formation et je suis psychanalyste. Les psychothérapeutes, c'est une formation particulière, comme les psychologues. Les psychanalystes, ils viennent un peu de partout et de n'importe où. L'idée d'un psychanalyste, c'est quelqu'un qui a fait une analyse didactique sur lui-même.
Voilà. Mais justement, dans cet appel-là, au départ, il y a une sorte de paradoxe. Est-ce qu'on peut psychanalyser une société ? Parce que quand on s'adresse à un président, on s'adresse à quelqu'un qui va diriger une société, un pays, un État. Est-ce qu'il n'y a pas un hiatus là, à cet endroit-là ? C'est-à-dire que normalement, enfin, si j'ai bien compris, un psychanalyste s'adresse à l'individu. Et là, il s'agit de parler d'un pays.
Mais c'est justement, je pense, l'originalité. Et en fait, ça m'a beaucoup enthousiasmé ce projet parce que nous, on a un rapport 1-1 à l'intime. Mmh. Et à force de sonder quand même la souffrance humaine, puisque c'est quand même notre but, et de sonder l'intimité des gens, puisque ce que l'on essaye de comprendre, c'est comment fonctionne le cerveau de chacun, d'abord le nôtre et ensuite ceux des autres. Je trouve que justement, en additionnant toutes ces personnes et en voyant qu'il y a des traits qui apparaissent de façon commune, je trouve qu'on est justement très habilités, nous, en tant que citoyens, à réfléchir à ce sujet-là.
On peut dire, comme il y a quelques années, Jean-Paul Deloye, qui était alors médiateur de la République, il terminait sa mission, il disait « la société française est fatiguée psychiquement ». On peut le dire comme ça d'une société ?
Bah oui, il y a des maladies qui apparaissent comme le burn-out aujourd'hui. Moi, je travaille plus particulièrement sur tous les troubles psycho-affectifs et les couples. On voit que c'est une sorte de catastrophe. Les gens se séparent de plus en plus tôt. Le couple, tout le monde s'interroge sur son avenir et sur sa capacité à générer du bonheur. Donc oui, il y a une vraie souffrance psychique aujourd'hui.
Mais de la société en tant que...
Mais la France peut aller se coucher un petit peu et se réveiller dans 8 heures mieux, peut-être. C'est simplement une nuit de sommeil,
c'est
peut-être.
Ça, ouais.
Bah, déjà, ça pourrait commencer comme ça. Mais oui, mais de la société, on peut dire de la société dans la mesure où on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de demandes. Donc c'est la somme des souffrances qui peut nous permettre de dire que ça devient une souffrance de société.
Alors on a ici aussi, on travaille avec des gens qui ont une agence de psychanalyse urbaine, qui font des psychanalyses des villes, et ça c'est formidable. Alors Fabienne Crémer, dans cet appel, vous donnez des conseils, vous faites des demandes aux candidats présidentiels. Quels sont vous, psychanalytiquement, qu'est-ce qui serait utile? Qu'est-ce que vous demandez au futur président?
Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les 35 en général qui ont participé ne sont pas concertés. On a tous donné nos avis, donc on est plus ou moins d'accord avec les propositions des autres.
Quelqu'un peut demander le contraire de ce que demande l'autre?
Alors, c'est pas ressorti. Je trouve qu'il y a quand même une ligne.
Il n'y
a pas trop de contradictions. Puis peut-être que Psychologie Magazine a vraiment essayé de gommer les contradictions pour qu'on apparaisse avec une forme d'unité. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était toujours le rapport homme-femme. J'ai proposé, par exemple, que le congé maternité soit partagé entre le père et la mère, obligatoirement, non pas de façon accessoire. Il n'y a que 4% des hommes qui prennent leur congé paternité. Obligatoirement et dans la même longueur, afin de gommer deux choses. D'abord, le fait qu'un enfant, ça ne se fait pas tout seul. Donc, il serait temps qu'on prenne conscience que ça se fait à deux. Et ensuite, pour limiter vraiment la discrimination à l'embauche qui existe encore chez les femmes.
Ça, obligatoirement, voici un mot, c'est fort, hein, la notion encore d'obligatoire. Vous croyez qu'il n'y a pas assez d'obligations comme ça?
Alors, je veux dire obligatoirement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes, elles prennent leur congé maternité et ce serait bien peut-être que les pères, on y trouverait bien sûr de l'intérêt, prennent le temps aussi d'avoir du temps pour leur enfant petit et puis d'offrir à leur conjoint, enfin à leur femme ou à leur compagne, la possibilité de travailler plus tôt.
Oui, mais obligatoire, il y a l'idée de forcer des gens à s'occuper. C'est donc à la société de nous dire, vous devez vous occuper de vos enfants, vous croyez ça?
C'est-à-dire qu'à partir du moment où le couple prendrait un congé paternité, un congé parental, d'une manière ou d'une autre, il faudrait qu'il soit partagé. Ce serait l'obligation, ce ne serait pas de le prendre, ce serait de le partager.
Il y a beaucoup de propositions, enfin quelques-unes qui concernent la famille, et notamment, il s'agit d'élargir l'accès à la PMA.
Alors, ce n'est pas une loi que moi j'ai proposée.
Ah, mais c'est un texte collectif, alors.
Alors, la PMA, pour moi, le problème n'est pas de savoir qui y a droit.
La procréation médicalement assistée.
Voilà. À mon avis, à partir du moment où la PMA existe, il n'y a aucune raison de discriminer les uns ou les autres par rapport à ça. Et donc, tout le monde doit et peut y avoir accès. En revanche, après, il y a des discussions sur peut-être sur la PMA elle-même. Bon, ça, c'est un autre sujet. On propose aussi, et il y a eu une pétition en Psychologie Magazine pour prescrire les crimes sexuels, les crimes sexuels, ça me semble essentiel.
Et globalement, renforcer la protection des victimes. Ça, c'est une mesure que vous suggérez dans ce texte-là.
Et moi, ce que je propose aussi et que j'aime beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez un crime passionnel, puisque moi, je travaille sur le couple, c'est plutôt un facteur atténuant au niveau de la justice. Et moi, je pense que ça devrait être un facteur aggravant. Parce que je crois que c'est pire de tuer quelqu'un qu'on est censé aimer que éventuellement de tuer ou d'agresser quelqu'un qu'on ne connaît pas.
Donc ce qu'on comprend dans cet appel, dans ce programme, c'est que ce sont des mesures souhaitées, mesures on va dire sociétales, mais qui partent de l'individu.
Mais nous, notre travail, c'est juste que du face-à-face ou du face-à-dos, j'en sais rien, mais on ne s'adresse qu'à l'individu. Et notre vision des choses, et peut-être c'est là l'originalité de la vision des psys, c'est qu'on part de l'individu et que on l'étend à la société, on a un regard très particulier.
Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'école apparemment, puisque dans cet appel-là, beaucoup de mesures sont liées à l'éducation, au lieu de l'école et même aux études de médecine, où vous dites qu'il faudrait que les médecins soient un peu plus formés en termes de psychologie.
Oh, ça, on est... Enfin, moi, je,
on est absolument d'accord, vous êtes d'accord.
Vieille, oui. Peut-être que ça s'est amélioré, mais enfin, je ne suis pas certaine. Et en tout cas, ce n'est pas un critère de recrutement. Mmh. Aujourd'hui, les médecins sont recrutés sur leur capacité à bien faire des maths ou de la physique et non pas avoir un aspect psychologique. Donc, c'est sûr que le développement de la psychologie et cet accès, ça nous semble évident. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient proposé la méditation, le yoga à l'école parce que ça fait ses preuves ailleurs. Mmh. Donc, ça semble être une bonne chose. Moi, je pense aussi qu'il y a aujourd'hui des gros problèmes sur toutes les jeunes qui sont attirés par des radicalisations. Je pense qu'un encadrement... Je crois que la radicalisation aujourd'hui, elle part d'un problème psy au départ. C'est-à-dire que c'est souvent, quand on raconte, moi je me suis très intéressée, je suis passée ce matin devant la belle équipe en venant vous voir, et quand on raconte l'histoire de ces gens-là, on s'aperçoit qu'il y a souvent une absence du père, qu'il y a souvent...
La belle équipe qui est ce café qui avait été... il y a eu une fusillade juste après les attentats du Bataclan.
Rue de Charonne à Paris. Oui.
Et donc, je me dis, il y a peut-être aussi un travail de psy à faire en amont de cet ordre-là, pour être intéressant.
Mais est-ce que dans ces mesures-là, il n'y a pas quelque chose aussi pour dire il faut que les psys existent plus dans les prises de décision? Est-ce qu'il n'y a pas une part de revendication un peu professionnelle, sinon corporatiste, dans ce texte-là?
Alors, Psychologie Magazine. On ne s'est pas réunis pour se dire ça, oui. Mais Psychologie Magazine est un ouvrage qui nous représente bien. Donc, ils y ont pensé avant nous, je dirais, peut-être parce qu'ils ont... un courant, mais ça pourrait être intéressant. Moi, en tout cas, ça m'aurait toujours passionné de travailler proche des politiques, ça c'est sûr.
Est-ce que vous avez déjà des retours de certains candidats? Est-ce qu'ils les ont reçus? Est-ce que vous savez ça?
Ils ont dû le recevoir, les dossiers de presse, en même temps que vous. Le journal sort aujourd'hui ou demain, je n'ai pas la date exactement, donc ce serait bien, ouais, ce serait bien qu'ils nous lisent, ça nous ferait plaisir.
Merci beaucoup Fabienne Crémer. Ouais. Donc c'est dans Psychologie et Magazine du mois d'avril, donc effectivement...
Il y a Catherine Deneuve en couverture.
Avec un chien.
Ah oui, mais oui. Le chien, je ne le connais pas. Merci beaucoup. Crois-moi que je dis que... Oui, il n'y a pas de raison de ne pas le croire. François Rollin, il va bientôt y avoir l'espace pub. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre en tant que consommateur?
Alors, ce que j'ai un petit peu raté tout à l'heure, c'est-à-dire la date limite au-delà de laquelle je ne sais plus quoi, on ne peut plus. Hein, là, il y a une date limite quelque part, ça j'aimerais la réécouter. Et puis j'aimerais en savoir plus sur le gars qui appelle l'autre pour lui dire que dans la boutique machin c'est mieux,
c'est
tout
bien,
ça.
Et puis ceux qui rigolent et au final tout va bien.
Ouais. En tout et cas, celui qui passe pas l'aspirateur, il me faut les quatre.
Ce que j'aime bien
en fait.
Chez vous, François, c'est que vous accueillez la publicité non pas avec hostilité, non pas comme une incitation désagréable, mais comme un conseil de vie.
Oui, c'est même pour moi le moment.
C'est votre
mon moment préféré de l'émission.
À tout de suite.
Pardon, hein.
Oui, oui. 7h, 9h, plus près de toi.
Ça va ? Plus près de toi.
7h, 9h, Édouard Baird.
Je passe une matinée. Mon Dieu.
Mais alors, Victoire, toi, parce qu'en fait, l'école dans laquelle tu es, c'est une école catholique où on peut se confesser. Mais c'est pas les prêtres qui vous confessent, c'est pas vos profs. Ils peuvent pas après s'en servir contre vous.
Non.
Bon, et alors, c'est aujourd'hui. Et tu veux un petit peu te pré-confesser avec moi? Qu'est-ce que tu vas dire que tu regrettes, que tu as fait de pas bien? Tu t'es disputé, tu m'as dit juste avant, pendant la publicité.
Mmh.
Avec qui tu t'es disputé?
Avec mes deux frères.
Attends, t'as deux frères? Oui, mais t'as le droit de te disputer parce qu'il y a deux garçons et une fille?
Oui, je suis la seule fille.
Et c'est comment, il y a des clans un peu? C'est souvent les deux garçons contre toi ou toi contre les deux garçons?
Les deux garçons.
Donc tu penses que c'est un peu eux qui avaient tort ou pas?
C'est que eux, ils commencent, ils lisent mon journal et après, ils se moquent de moi.
T'as un journal intime?
Oui.
Est-ce qu'il y a un petit verrou, un petit cadenas ou pas?
Oui, j'en ai mis, non.
Mais ils savent l'ouvrir quand même?
Je l'ai mis il n'y a pas longtemps parce qu'avant, il ne marchait pas, et le cadenas.
Maintenant, tu le mets, donc ils ne peuvent plus le lire. Et tu n'as pas des cachettes pour le mettre, ce journal?
Non.
C'est pour ça, mais il faut que tu le planques aussi. Parce que c'est normal, c'est toujours comme ça, le journal intime. Si on tombe sur un journal intime, on a envie de se moquer, même si c'est bien ce que tu as écrit. Mais donc, tu penses que c'est eux qui avaient un petit peu tort, quand même.
Mm-hmm.
Oui, mais pour se confesser, il faut vraiment regretter. Donc, pour le moment, tu penses que tu avais raison. Donc, c'est à eux de se confesser. Alors, écoute, c'est quoi ton poème aujourd'hui, Victoire?
Chounia.
Chounia. Chounia de Victor Hugo.
Mm-hmm.
Alors, on t'écoute.
Ma chienne, la Chounia, n'est pas certes une bête. Nous rentrons, sous mes mains fourrant sa grosse tête. Elle sent un sermon venir et se tient quoi. Je la prends par l'oreille et je lui dis. Pourquoi te comportes-tu mal, Chounia, devant le monde? Pourquoi, quand nous sortons, il faut que je te gronde? Courtu, Japon, hurlant, à travers les buissons, après les jeunes chiens et les petits garçons. Pourquoi ne vois-tu pas un coq sans le poursuivre ? Si bien que moi, j'ai l'air d'avoir une chienne ivre. Cela nous fait mal voir. Les gens sont irrités. Je te connais beaucoup de bonnes qualités. Fidèle, réservée, intelligente, affable. Mais vraiment, quand tu sors, tu n'es pas raisonnable.
Ah bravo, c'est la fin. Et Chounia, c'est un joli nom, tu trouves, pour une chienne ou pas ?
Bah, pour c'est bien, oui.
Toi, tu as un chien ?
Oui.
Qui s'appelle comment ?
Lucienne.
Et tu lui parles comme ça, comme Victor Hugo à Chounia ?
Bah, oui.
Qu'est-ce que tu lui dis ?
Bah, je lui dis pourquoi t'as fait pipi dans la maison.
Ah bah, et alors, elle répond ou pas ?
Bah...
Parce que tu sais, quand on parle à ces animaux, ça va encore, c'est quand les animaux répondent qu'on dit qu'on est un petit peu cinglé. Donc Lucienne ne répond pas ?
Pas trop.
On va faire une mise en situation. Tito, s'il vous plaît, vous allez faire Lucienne. Maman, vous nous déconcentrez en vous mettant face, là. Venez de l'autre côté. Voilà, Tito, viens là. Donc, on imagine que Tito, c'est Lucienne. Et on va... Alors, maintenant, tu peux faire une Lucienne un peu agressive. Comment tu es ? Comment tu lui parles, alors, Lucienne ?
Lucienne ?
Donc Lucienne te fait rire plutôt.
Oui, mais...
Elle n'est pas comme ça, Lucienne ne ressemble pas à Tito ?
Non.
Alors moi je vais le faire, moi. Plus ça ou pas ?
Bah Lulu c'est un cri plus aigu.
Plutôt ça ?
Oui.
Dis-moi un mot gentil. Je continuerai à aboyer toute l'émission jusqu'à ce que tu me dises un mot gentil. Je suis désolé de vous faire subir ça, c'est un moment important.
Je sais pas.
Dis-toi,
quoi dire.
Qu'est-ce que tu dis à Lucienne quand t'es contente d'elle ?
Bah, je lui dis bravo.
Eh ben voilà, bravo, moi ça me va, bravo. Comme ça, pour l'antenne, ma chère Victoire, je te laisse aller à l'école, grosse bise, à tout de suite. Janéa et Alpha, quel est le titre de la chanson ?
Blow up, comme une explosion, je crois.
Oui.
Ouais.
Faut être sûr,
comme
hein,
le film d'Antonioni, c'est pour ça. Oui, mais... ouais. Eh bien, il est 8h et c'est Thierry Paré.
Bonjour, la plus grande mobilisation...
Bonjour.
Bah bonjour, il y en a qui arrivent
non,
seulement à 8h.
Non, vous avez fait bonjour, vous êtes trompé de console.
Ah d'accord. La plus grande mobilisation guyanaise remonte au mois de novembre 96. Le mouvement s'était étendu sur 4 semaines hein, quand même. Alors il était initié à l'époque par les lycéens qui dénonçaient les manques de moyens, de personnel, les sureffectifs. Bref, 20 ans plus tard, la grève générale illimitée a donc été votée en Guyane. La deuxième plus grande région française appelle à manifester aujourd'hui sur tout le territoire et plus spécifiquement dans les rues de Cayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni, les deux principales villes guyanaises. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve, lui, il a annoncé l'envoi sur place d'une délégation ministérielle avant la fin de la semaine. C'est rare de voir la communauté chinoise de Paris se mobiliser de la sorte. Environ 200 personnes issues pour la plupart de la communauté chinoise se sont rassemblées hier soir devant le commissariat du 19e arrondissement de Paris. Il y a eu des affrontements. 3 policiers ont été blessés. Une voiture de police incendiée. Il s'agissait de protester contre la mort d'un homme de 56 ans tué dimanche à son domicile lors d'une intervention de la police qui a mal tourné. La police parle de légitime défense. Une version qui est contestée par les proches de la victime.
Thierry, la communauté chinoise sont-ce vraiment des Chinois ?
Et est-ce vraiment non. une communauté ?
Non, non. Oui. C'est une communauté, ça j'en doute pas, mais
si.
Ce sont des Chinois de
oui.
Chine ? Non.
Ah oui, oui, si, du sud de la Chine même pour beaucoup d'entre eux, pour ce qui concerne la communauté chinoise qui vit à Belleville. Parce que c'est de, ce qui
D'accord. Non, parce que moi souvent je les situe plutôt dans ce qu'on a, l'ancienne Indochine, le Vietnam, Laos, d'accord, mais là c'est des Chinois de
non,
Chine.
Non, c'était précis ce que dit...
Ouais.
C'est pas l'Asie en général, François Rollin. Thierry Paré est assermenté.
Il met patte l'oiseau.
N'y revenez plus.
Pénélope Fillon est convoquée aujourd'hui dans le bureau des juges d'instruction. L'épouse discrète de François Fillon pourrait être mise en examen ou être placée sous le statut de témoin assisté. Elle doit être interrogée sur les deux emplois qu'elle a cumulés, à savoir assistante parlementaire et salariée de la revue des Deux Mondes pour près de 9000 euros bruts. Le principe de préjudice d'angoisse a été reconnu par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme. C'est la première fois que le préjudice d'angoisse, c'est-à-dire la reconnaissance d'une souffrance générée par la conscience d'une mort imminente, est reconnu pour des victimes d'actes terroristes. C'était une demande des avocats des victimes. Le Conseil de Paris a voté l'installation d'une paroi en verre pare-balles, haute de 3 mètres, tout autour de la Tour Eiffel. Le projet de sécurisation du monument a été adopté à l'unanimité. Il devrait être achevé au deuxième trimestre 2018 pour un coût de 20 millions d'euros. Le vétéran de la lutte anti-apartheid, Ahmed Kathrada, compagnon de cellule de Nelson Mandela dans la prison de Robben Island, est décédé à Johannesburg. Il avait 87 ans. Il était ancien député, conseiller du président Mandela pendant son seul mandat à la tête de l'Afrique du Sud entre 94 et 99. Le nord-est de l'Australie est en train d'essuyer les pluies torrentielles et les vents violents du cyclone Debby, cyclone qui a provoqué l'évacuation anticipée de milliers d'habitants. L'équipe de France de foot va rencontrer l'Espagne ce soir en match amical au Stade de France, match qui va bénéficier de l'assistance vidéo, c'est une première en France, enfin pour un match des Bleus en tout cas. Et puisqu'on parle football, comment fêter une victoire? Les Islandais ont leur petite idée, on vient d'assister le week-end dernier à un pic de naissance, 9 mois tout juste après la qualification de leur équipe nationale pour les quarts de finale de l'Euro. Une première, ils avaient battu les Anglais 2-1.
Vous avez l'assistance vidéo chez vous, François, ou pas?
Oui, pas dans toutes les pièces.
Les pièces à risque, quoi.
C'est bien le problème.
Voilà, mais je n'ai pas mis dans la salle de bain.
Non, pas salle de bain, non.
Non, par discrétion. Ouais.
Cuisine,
bien sûr.
Au-dessus du frigo.
Cuisine, les chambres, tout ça. Et tout le sous-sol en assistance vidéo.
Merci de votre sincérité. Jacques, souvent dans les rues de Toulouse.
Bertrand, il y a des côtes de bœuf, ça compte 2 ans.
Oui, tout à fait. Ça fait 3 ans que je suis ici. C'est un concept que j'ai mis en pratique de suite. Bon, 2 ans, c'est juste pour le fun, c'est juste des tests. Hein. Ça ne sert pas à grand-chose. Passer 3 mois d'affinage, il n'y a plus aucune évolution sur le produit. Mais on cherche juste à voir s'il y a une durée maximale de conservation de viande, quoi, si elle peut périmer ou pas.
Et vous les vendez après?
Elles sont déjà vendues. C'est des morceaux qu'on vend, des carrés de côte, donc côte de bœuf qu'on vend entier. On le vend frais, donc moins d'une semaine d'abattage à des clients, et c'est leur morceau, ils viennent quand ils veulent, et on leur découpe au fur et à mesure, tant qu'il en reste, c'est nous qui le gardons au frigo.
Bonjour Bertrand.
Bonjour.
À partir de combien d'années vous estimez que même une coupe de bœuf vendue, finalement, n'ira pas à son propriétaire et vous la récupérez? Parce que 2 ans, peut-être qu'ils auraient dû venir les récupérer quand même.
Ben non, ouais, pour le coup, ouais, mais là, c'est juste un test, en fait. Là, c'est vraiment, vraiment, on essaye de voir la durée maximale que peut avoir une côte de bœuf, mais... Passé 3 mois, il n'y a plus aucune évolution.
D'accord Bertrand, mais vous la testez à l'œil, vous ne prenez pas grand risque, il y a juste votre œil et votre odorat qui la testent, mais le consommateur, lui, celui qui l'a acheté, va la tester au goût, et ses intestins risquent de trinquer, vous pensez à 2 ans de maturation?
Aucun risque, hein, vraiment aucun risque. De toute façon, on le voit, dès qu'on coupe, et dès qu'on part, et dès qu'on fait les entames, la moindre odeur suspecte, on le jette, mais pour l'instant, on n'a eu aucun retour et on fait des tests avec des labos.
D'accord. Il faut rester à combien de degrés pour que ça tienne de la viande 2 ans comme ça?
Entre 1 et 3 degrés et un taux d'hygrométrie maîtrisé entre 20 et 30%.
Alors je le note, si moi ça m'arrive, 20-30%, 1 à 3 degrés. On est où à Toulouse là? On est où?
Au marché Victor Hugo, en centre-ville.
Le fameux marché Victor Hugo. Donc vous avez des amateurs qui vous achètent des viandes à l'avance et qui viennent les chercher?
Voilà, tout à fait. Ils achètent la pièce entière, fraîche, et après, ils viennent 2-3 semaines après, ils me demandent, on va prendre une côte de bœuf de mon morceau.
Alors,
il y a des prénoms dessus, il y a François, il y a Alain, il y a Mika, tout ça, c'est réservé. C'est des morceaux réservés, c'est les clients qui achètent le morceau entier. Après, on le fait au détail aussi, de 30 à 90 jours d'affinage, mais...
Alors la France, c'est un drôle de pays parce qu'il y a des habitudes alimentaires. On ne sait pas pourquoi le matin on prendrait des tartines, des croissants, qu'on prendrait de la viande qu'une fois par jour ou parfois avant c'était une fois par semaine. Est-ce qu'il y a des viandes pour le matin? Est-ce qu'il y a des morceaux de bœuf que vous conseillez pour le petit déjeuner?
Pour le petit déj? Ouais. Un morceau relativement maigre quand même, parce que bon, c'est un peu dur à avaler sinon à digérer le matin. Mais non, mais le bœuf, ils ne font pas trop. C'est plutôt pâté, charcute. Donc, de Toulouse, quoi.
Donc du porc le matin, du bœuf à déjeuner et
de la volaille
blanche,
le soir.
Et une volaille le soir.
Pour digérer un peu, ouais, c'est ça. En gros, c'est ça, ouais.
Et éventuellement, le dimanche, une feuille de salade?
Le dimanche? Non, ça on ne connaît pas, ça. Par contre, la salade, ça on ne connaît pas, ça. C'est la déco d'assiette, ça.
Est-ce que vous faites partie des gens qui acceptaient de boire de l'eau que dans leur Ricard?
Ouais, c'est à peu près ça, ouais.
C'est pas vrai, Bertrand, il est blond, mais je pense qu'il est teint aussi, il a des tatouages au mollet, parce que vous êtes bouché mollet nu, quoi.
En short, ouais. De toute façon, la saison a commencé, il y a décembre, janvier, en pantalon, et le reste de l'année, c'est en short.
Bouché mollet nu, c'est joli, on dirait une région, j'habite à mollet nu, je suis de mollet nu.
À mollet nu, tout à fait, ouais, ouais. On dirait qu'on a un kilt avec le tablier, en plus, c'est super.
Nu que courte et mollet nu, qu'est-ce que vous dites, Jack, souvent?
Non, j'ai dit, je confirme, on dirait un kilt tablier, quoi.
Mais pourquoi vous confirmez? D'où vous confirmez? Qui vous autorise? Je ne comprends pas
non
ça.
Mais dites donc.
Non, enfin, je confirme. Et si vous n'êtes pas... Bon, bah écoutez, je vous laisse avec Bertrand, vous salue dans ce club des mollets nus du mardi matin. Salut les gars. Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
7h-9h, plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h-9h.
2 heures d'émission. Mais c'est beaucoup trop court.
Non mais Conforama, j'ai compris à peu près ce qu'il voulait nous dire, mais le concours de beauté Peugeot, là, ça m'a pas... Hein.
Bon, ben, on l'annule.
On l'annule. Je François Rollin, l'animal du mardi.
Oui, quel générique.
Est, quel est ce, générique, il a un générique
pas, ouais, pas ah, oui, j'ai un générique. Écoutez bien.
L'animal du mardi.
Avec la musique de Tabou, c'est voilà. Très beau morceau. Quel alors, est l'animal du mardi, François?
Bon, Edouard, nous sommes des grands garçons, on ne va pas se crêper le chignon à l'antenne, même si il m'arrive de transgresser un interdit. Alors là, je vais jouer carte sur table avec les auditeurs. Vous m'avez demandé, en cette période présidentielle, de ne pas traiter la loutre.
Allez-y, dites-moi, l'animal du mardi,
c'est... Eh bien, moi, j'ai décidé de traiter, cependant, la loutre.
Non.
Et j'irai jusqu'au bout.
Non, 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 François.
La loutre, Edouard, soyez beaux joueurs, chacun a son droit de parole. Moi, pour moi... période présidentielle ou pas, ça m'est égal, je veux faire la loutre, il y a une demande de la part des auditeurs pour la loutre, je fais la loutre, laissez-moi faire la loutre jusqu'au bout, et puis vous parlerez après si vous voulez, Edouard.
Vous savez très bien qu'après ça va forcément attirer des commentaires, les gens vont croire que vous l'avez fait exprès à cause des élections qui arrivent.
Mais le candidaton, si on se met à genoux, Edouard, devant le candidaton, on n'en sort plus. Bon. Alors demain, faudra pas parler du léopard, vous voyez
Prenez vos responsabilités.
Alors, la loutre est un mammifère essentiellement piscivore de la famille des mustélidés. Oui, je dis bien, de la famille des mustélidés. Vous pouvez lever les yeux au ciel, Edouard, ça n'empêche pas. Elle a de courtes pattes, des doigts griffus et palmés et une longue queue. Alors la loutre est une excellente nageuse, mais oui, ben, ne vous déplaise, Edouard, c'est comme ça. Elle peut rester en apnée jusqu'à 8 minutes sous l'eau. Contrairement à l'ours polaire, je dis bien contrairement à l'ours polaire, la loutre ne dispose pas d'une épaisse couche de graisse sous la peau, c'est son pelage qui l'isole du froid. C'est un animal en très forte régression sur la presque totalité de son aire de répartition. Et là, je veux vous donner quelques chiffres. En France, on comptait 50 000 loutres au début du XXe siècle. Mais en 1980, il en restait à peine 1500. Voilà. Depuis son inscription en 1981 sur la liste des espèces protégées, la population de la loutre est remontée à environ 3 000 individus. Voilà. Ben, je crois que c'est pas un crime quand même. Bon, d'accord. Édouard Boud,
c'est fini. Vous vous rendez bien compte de comment ça peut être interprété, ce que vous venez de dire?
Oui, je me rends compte, mais si on prend pas des risques, si on transgresse pas, c'est plus près de toi, c'est ça aussi, c'est l'esprit de... Faut y aller, on est jeune, on dit ce qu'on pense.
Merci, François. Hein. C'est Camille. Tito, vous me disiez, je viens à l'émission pour me payer une bonne tranche de bonne humeur. Hein. C'est l'expression que vous avez employée.
Exactement.
Oui, et ça, vraiment, pour nous, c'est très gratifiant.
Oui,
voyez,
tout à fait, ça fait toujours du bien.
Ça fait du bien, ça parce que savoir prendre le compliment, c'est une forme de modestie. Vous
c'est
savez.
Une forme de modestie et puis une certaine complaisance.
Oui, mais dans la complaisance positive, je dirais.
Alors voilà, positif tout le temps, positif toujours, 100% noir de bigorre.
Cette main tendue, il est l'heure d'écouter religieusement Marie Missé.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Missé.
On a 2 minutes d'avance, est-ce que ça va troubler vos fidèles?
Je pense pas, parce qu'elle doit durer 8-9 minutes, du coup ils vont me rattraper en cours de route.
Ne le prévenez pas avant, oui, parce que ça passe comme si c'était 20 secondes.
Bien sûr.
La vie passera comme un songe. Bien sûr.
Alors dans la presse aujourd'hui, là... campagne de François Fillon inquiète ses soutiens. Dans Le Parisien, un élu qui est resté fidèle à François Fillon, enfin vu ce qu'il dit, on a plus l'impression d'une fidélité par manque d'occasion que par conviction.
Manque d'occasion de trahir.
Dit que sa défense, c'est comme celle d'un cambrioleur qui se plaint que les caméras de vidéosurveillance fonctionnaient pendant son casse. Dans Le Monde, quelqu'un qui s'affiche aussi comme un soutien, encore un petit peu branlant à mon avis, explique qu'il voulait soutenir un gaullisme social à la Philippe Séguin et qu'il se retrouve derrière Trump. Mais soyons honnêtes, ce qui intéresse au moins autant la presse et les revues aujourd'hui, c'est l'état de la gauche et plus précisément du PS. Le Figaro écrit une présidentielle mortelle pour le PS. Alors ils sont allés voir des sympathisants PS dans l'Hérault qui ont voté pour Hamon à 60% pendant la primaire et qui, devant les ralliements successifs des ténors du PS à Emmanuel Macron, ont l'impression qu'on leur fait un bras d'honneur. Je cite, un élu de Nîmes dit qu'entre 2012 et 2017, 300 des 400 adhérents PS de la ville avaient foutu le camp. Ils sont revenus en confiance, voter pour la primaire, et avec Momo, je le dis, on leur fait finalement à l'envers. Cette idée d'une mort du PS, Le Monde la reprend à son compte, tout en métaphore, en parlant du discours de François Hollande pendant les obsèques d'Henri Emmanuelli, tout en subtilité, donc on lit « Ce n'est pas seulement Henri Emmanuelli qu'on enterre, beaucoup en ce moment se sentent orphelins. » De là à dire qu'on enterre la gauche, il n'y a qu'un pas que Le Monde franchit à peine, puisque dans l'article, on enterre une certaine idée de la gauche. Tahar Benjelloun, dans l'hebdomadaire Le 1, dit en d'autres mots la mort pour lui d'une certaine idée de la gauche aussi, la sienne. Au Maroc, dit-il, ma génération a été élevée dans l'esprit de la gauche française. Elle a été notre référence, notre espoir, notre refuge. Par gauche, nous entendions progrès social, justice pour les démunis, égalité de l'homme et de la femme, primauté de l'intérêt national sur le particulier, solidarité avec les peuples opprimés ou vivant sous occupation coloniale. Autant dire que l'exercice du pouvoir a étiolé la référence, l'espoir et le refuge. Et d'ailleurs, Tahar Benjelloun en parle au passé. L'hebdo s'intitulait d'ailleurs « La gauche peut-elle encore espérer ?» ce qui se transforme à la lecture des articles en « Peut-on encore espérer de la gauche ?» La revue Mouvement, avec un S, revue affichée de gauche, qui est composée de chercheurs, de journalistes, de militants, est à la fois plus radicale et plus optimiste. Le dernier numéro, et il est épais, s'intitule « La gauche est morte ». Vive la gauche. Pour elle, ni Mélenchon, autoritaire et trop 5e République, ni Benoît Hamon, trop isolé, ne saurait représenter un futur. La gauche est désencerclée du monde social, lit-on dans les titos, et notamment des cultures populaires qu'ils prétendent représenter. Ces partis se sont transformés en simples machines électorales et on croit voir là résumer à la fois la pensée des militants de l'Hérault et celle de Tahar Benjelloun. Quant à la gauche radicale, lit-on toujours, non seulement elle se perd en querelles intestines, en ressassements idéologiques, en querelle de personnes, mais comment ça se fait qu'elle ne s'intéresse toujours pas sérieusement à l'enchevêtrement des dominations de classe, de race et de genre dans la production des inégalités. Pour Mouvement, on a bien atteint, en écho avec Le Figaro, Le 1, Le Monde, un point de rupture. Et pour reconstruire un mouvement qui pèsera pas cette année apparemment dans l'espace public, il serait temps de s'inspirer de toutes les initiatives, luttes, organisations minoritaires et locales. Bref, dans l'horizon de Mouvement, même un ralliement ultime de Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon ne serait pas pertinent. Alors que pour Luc Levaillant, dans Libération, eh bien on imagine une fusion un peu rigolote où Mélenchon, fort de son âge et de ses talents rhétoriques, prendrait le dessus. Mais il rajoute qu'il va falloir botoxer sévère le nouveau-né, je cite, pour en faire à la fois un bébé rieur et un papy farceur, car tout le monde rêve d'avoir ce genre de fusion à la tête de l'État. De toute façon, vu les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, cette fusion reste hautement improbable. Le Monde cite le candidat de la France Insoumise qui disait en janvier à propos du PS et devant un public hilar, c'est comme le casse-noix, faut que ça serre des deux bords, Macron et Mélenchon, et au milieu, ça fait de l'huile.
Merci beaucoup Marie Misset. Il est l'heure de mon invité de 8h21. François Rollin, bonjour. Vous êtes l'auteur de « À gauche et à droite toutes ». Vous êtes aussi l'auteur de « Trahir, encore faut-il en avoir l'occasion ». Vous prenez un nouveau comportement politique qui est d'assumer sa mauvaise foi, d'assumer l'idée d'aller vers le plus offrant, d'assumer une absence de conviction et un goût pour les avantages.
Oui, je crois que c'est ce que j'appelle moi la transparence politique, la nouvelle transparence en réalité, c'est ça. C'est-à-dire que j'arrête de vous casser la tête en vous racontant que je suis un honnête homme. C'est sans intérêt, c'est inutile, ce n'est pas vrai. Donc autant...
Vous êtes une merde, hein. Là je vois un article sur vous, et vous voilà. Avez dit tout est vrai dans cet article. Alors on voit une photo d'où vous êtes en vacances au Qatar, des vacances payées par les Qataris, voilà, oui. Et Poutine vous a fait envoyer un avion, et là vous avez trahi les Qataris.
Voilà, et puis Trump m'a fait envoyer des costumes.
Il y a une très belle photo de vous avec les dirigeants de Corée du Nord, vous avez l'air de bien vous amuser.
Voilà, et ben, tout ça c'est...
Du plaisir, la vie est courte, me disiez-vous.
Voilà, hein. voilà. D'ailleurs, ça va jusqu'au nom à la littérature, c'est-à-dire que mes bouquins... c'est vraiment, vraiment
c'est
bien
pas
de la
bon,
merde.
Mais c'est pas de vous.
C'est pas bon.
Mais vous ne les écrivez pas vous-même, mais vous touchez
non plus,
simplement.
Bien sûr,
vous touchez au seuil chez Flammarion et Grégoire. Très bien. François Rollin.
C'est la corruption érigée en système d'éducation.
Vous n'êtes pas un mec bien, mais vous me dites on n'a qu'une vie, j'ai envie d'en croquer, j'ai envie d'en profiter, et puis après nous le déluge.
Et puis je ne suis pas tout seul.
Voilà. Et vous êtes habillé en femme et très maquillé ce matin, ce qui n'a rien à voir.
C'est parce que sur le plan sexuel aussi, je suis très, très trouble, quoi.
Et
je l'assume aussi. C'est le grand n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle le grand écart.
Il y a des photos de
écart.
Vous qui circulent, oui. ça fait plaisir en revanche. Merci pour ce petit moment-là.
7h-9h, plus près de toi.
Plus près de toi. 7h-9h,
Edouard Baird, 7h-9h. Oh, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
Vous n'avez pas de procès au, vous avez pas de procès au cul, Tito?
Malheureusement,
non, ça
si,
va.
Si,
ah
si,
bon,
fait, j'en ai
vous me raconterez pendant les, oui. après les infos. Ouais. Alors, je ne me rends pas du tout compte. 8h30, à votre avis, c'est, comment c'est écouté la radio 8h30? C'est plutôt dans les transports, là?
Vous voyez l'Himalaya, là, c'est, on est au pic.
Ah,
pic
on est au
de
pic
l'audience.
Des audiences. C'est le moment où j'aurais dû préciser ma parole. C'est le moment où je devrais être affûté comme un bon couteau. Et là, c'est là, la vie est passée par là. 8h30, Thierry Parel rappelle des titres.
Trois policiers blessés, une voiture de police en partie incendiée. C'est le bilan d'une manifestation hier soir devant le commissariat du 19e arrondissement de Paris. Une manifestation de la communauté chinoise du 19e pour dénoncer la mort d'un de leurs compatriotes dimanche à son domicile. L'homme de 56 ans a été abattu par des membres de la brigade anticriminalité qui était en intervention. La BAC parle de légitime défense, une version contestée par les proches de la victime. Et c'est très rare que la communauté chinoise se mobilise de la sorte. Journée morte en Guyane où la grève générale illimitée a été votée. La deuxième plus grande région française appelle la manifester aujourd'hui sur tout le territoire, notamment dans les rues de Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni, les deux principales villes guyanaises. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a lui annoncé l'envoi sur place d'une délégation ministérielle avant la fin de la semaine. Pénélope Fillon est convoquée aujourd'hui dans le bureau des juges d'instruction. L'épouse de François Fillon pourrait être mise en examen ou être placée sous le statut de témoin assisté. Elle doit être interrogée sur les deux emplois qu'elle a cumulés, à savoir assistante parlementaire et salariée de la Revue des Deux Mondes. Le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme, plus de 5000 victimes depuis 2015 pour un coût total estimé à 600 millions d'euros. C'est un coût qui va sensiblement augmenter parce que le principe de préjudice d'angoisse vient d'être reconnu par le fonds. C'est la première fois que ce préjudice d'angoisse, c'est-à-dire la reconnaissance d'une souffrance générée par la conscience d'une mort imminente, est reconnu pour des victimes d'actes terroristes. Le fonds a toutefois souligné qu'il ne tranchait pas à ce stade la question du champ des personnes éligibles ni les modalités de sa mise en œuvre. Le Conseil de Paris a voté l'installation d'une paroi en verre par balle tout autour de la Tour Eiffel, haute de 3 mètres. Le projet de sécurisation du monument a été adopté à l'unanimité et il devrait être achevé au deuxième trimestre 2018 pour un coût total de 20 millions d'euros. Elle se nomme Sima Kamil et elle va devenir la première femme à la tête d'une grande banque commerciale pakistanaise. Rares sont les femmes à avoir dirigé des grandes entreprises dans le pays. Même d'ailleurs, on peut le dire, l'accès même des femmes au marché du travail demeure très compliqué. Le vétéran de la lutte anti-apartheid Ahmed Kathrada, compagnon de cellule de Nelson Mandela dans la prison de Robben Island, est décédé à Johannesburg. Il avait 87 ans. Le nord reste de l'Australie, qui est en train d'essuyer les pluies torrentielles et les vents violents du cyclone Debby, cyclone qui a provoqué l'évacuation anticipée de milliers d'habitants. Et puis l'équipe de France de football va rencontrer l'Espagne ce soir. C'est un match amical au Stade de France, match qui va bénéficier de l'assistance vidéo. C'est une première pour les Bleus en France.
J'aime bien la notion de match amical, c'est-à-dire que les autres ne le sont pas du tout. Dites donc, sur les banques pakistanaises, donc les autres, qui y a comme dirigeants de banque?
Ah, je ne sais pas, mais c'est que des hommes.
Mais vous n'avez pas de nom d'adresse? Vous n'avez pas de...
Non.
Pas de...
Non, j'ai pas
ça. Oui, c'est ça.
Ouais,
on est un peu en dessous là-dessus. J'ai mis Théo Tito, là, c'est plus précis.
Et Gontran, et Gontran, Gontran, aujourd'hui c'est ta fête, il y a du soleil, il y a du soleil, des nuages et c'est chouette. Alors pour tous ceux qui n'étaient pas là ce matin, bien le bonjour à tous. La 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 et tout, c'est parti mon kiki, les températures seront aujourd'hui à Beauvais entre 8 et 18, à Brest entre 11 et 14, à Dreux entre 7 et 17, à Limoges entre 6 et 18, à Melun entre 7 et 18, Montpellier entre 9 et 18, beaucoup de 18 aujourd'hui, à Reims entre 7 et 18, à Vienne entre 9 et 16, Copenhague entre 3 et 8. La 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 la.
Tito, merci, vous l'avez signalé, c'est la Saint-Gontran aujourd'hui. Si vous avez la chance de connaître un Gontran, c'est le moment d'en appeler un. Allô?
Oui, allô? Allô?
Allô?
Allô, j'écoute.
Allô, Gontran?
Oui.
Gontran, de la part de toute l'équipe de Nova, très très bonne fête.
Oh, c'est Nova qui m'appelle?
Oui.
Oh là là! Mais vous avez eu mon numéro comment?
Hein? On est sur la voie d'un des plus mauvais sketchs de l'histoire de la radio. Restez avec nous, restez bien avec nous. Restez avec nous. Alors Gontran, on a eu ton téléphone, votre téléphone par un proche, par votre épouse.
Oh là là! Oh,
et qui nous a dit, ça lui fera plaisir.
Oh ben oui, ça me fait drôlement plaisir. C'est-à-dire, je m'y attendais pas du tout. Parce que... Maintenant, les gens ne souhaitent plus tellement la fête. Alors,
voilà, c'était d'où l'idée qu'on a eue ici à Nova, alors, avec l'équipe de plus près de toi.
C'est incroyable, oui. Mais c'est vraiment Nova, c'est Nova.
Voilà, et en plus je savais que vous étiez chez vous, Gontran, parce que vous êtes sans emploi.
Oui, bah, mais on ne va pas parler de ça un jour de fête alors.
Non,
hein,
bonne
hein
fête, puis je sais que vous êtes aussi malade, vous êtes alité, Gontran.
Oui, mais
on ne va pas parler de ça. Bonne fête, je sais que vous n'attendez...
Oh là là, c'est incroyable, oui. Oh là là, au début j'ai cru que c'était la valise RTL.
Ouais.
Parce que ça je l'ai, la valise RTL.
Ouais,
je vous dis ce qu'il y a dedans ou pas?
Non. Alors, on va un petit peu débriefer. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire au lieu de nous juger?
Bonne question.
Au lieu de nous juger avec là du genre, oui, évidemment. Oui, on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire autre chose avec d'autres gens sur un autre thème. Eh ben non, on s'est lancé. J'ai fait signer à mon François Rollin, j'ai dit on y va. Écoute ce qu'a dit Tito, c'est la Saint-Gontran. Est-ce que tu te sens d'y aller avec moi? Et là le Rollin il dit allez, on y va. J'ai pas tech, je m'en fous, tout en impro, tout en folie, tout en générosité, c'est tout cadeau là, hein, François. Vous êtes dit sans filet, sans valise, vous y êtes allé.
Ouais, puis acteur studio, hein, c'est-à-dire que j'ai vraiment été Gontran en moi-même.
Vous avez été Gontran, je vous ai plus reconnu, vous voyez. Alors le texte n'était pas là, évidemment, l'humeur, le rythme non plus, mais l'intention. Et quoi de plus beau qu'une bonne intention?
Eh ben, pourquoi on le referait pas demain matin?
Oui, demain matin, mais même sans nous, vous voyez, pas forcément à la radio, voilà. Je pense, bien entendu. Voilà, allez, c'est cadeau, c'est pour vous, vous le prenez, vous l'emportez chez vous, au bureau, au travail, la journée ou à la maison, il y a eu, vous avez dit, j'étais là lors du sketch de J'appelle un Gontran, et là c'est... Oui, Jacques Souvent dans la rue.
Moi je ne sais pas...
À Toulouse.
Le jus. On est chez Catherine, en face, c'est le cochon régaleur. Je suis avec deux... Alors, Jean-Marc, il fait le jus, ouais. Ah, il fait les blagues. J'ai fait un concours de blagues il y a 2 minutes.
Mais oui, je ne suis pas client. Voilà. Oui.
Et là, j'étais avec Dominique. Le Dominique, il est photographe. Il me dit, qu'est-ce que vous remarquez sur la photo de cochon là?
Oui.
Elle a un regard. Mais il a mis du temps à trouver quand même. C'était pas le premier à trouver, il a un regard. Mais il a un regard parce que c'est une tête de cochon morte avec les yeux d'une copine.
Oui, bah, je crois qu'aussi qu'il y a...
Il ne sait pas que c'est ses yeux sur la tête.
Il y a peut-être un reproche muet dans ce cochon. Peut-être qu'il nous dit pourquoi.
Parce que j'ai fait une page au Toulouse avec un film qui présente la métamorphose de Toulouse aux Toulousains.
Oui.
Donc c'est rapport avec la truie. Ben, je suis de la pub, je suis à la radio.
Oui. Alors, les ventes sont en train d'exploser.
Je reviens chez Jean-Marc.
Oui.
Histoire de sanglier.
La différence entre un sanglier de 120 kilos et une femme de 120 kilos.
Allons-y.
Le sanglier, quand tu le tires, tu te vantes. Et ben voilà.
Bien, voilà. C'est bien, on est content. On est content d'avoir été là à ce moment-là.
Ah, il y en a une autre.
Oui, ah bah, si c'est du même...
Les femmes, c'est comme les sangliers.
Oui.
Ils sont élevés au gland et à la châtaigne.
Voilà, ça c'est bien voilà, aussi. Ça, je suis content de l'avoir entendu. Ça, au moins... Allons-y, au point où on en est.
Non, il n'en a pas.
Donnez-moi mes cachets.
Petit escargot, Catherine, revenez. Elle est partie.
Catherine ne veut pas faire des blagues sur les mecs un peu, parce que pour le moment on est chez Catherine et j'ai Dominique et Jean-Marc.
Catherine,
les mecs, c'est comme quoi? Les mecs, c'est comme un épure.
Dans le petit escargot.
Non, mais Jean-Marc est extrêmement fort pour raconter les blagues.
Ah non? Non, on vient de la voir. On vient de la voir, c'est pas si bon que ça.
Bon, alors l'escargot.
Oui.
Donc c'est deux vieux corses qui se baladent dans le maquis.
Allons-y.
Et puis il y en a un, tout d'un coup, il fait un pas de travers et il écrase un escargot. Son copain, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et là, il lui dit... Ça fait 2 heures qu'il nous suit.
Merci beaucoup, Catherine. Merci, Dominique. Merci, Jean-Marc. Merci à tous. Vous avez participé. C'est trop d'amour, là. Jack, je suis obligé d'arrêter parce que c'était tellement généreux. Vous avez beaucoup donné ce matin.
Il me serre la main. Il me fait mal.
Oui, allez, je vous laisse. Je vous laisse avec vos camarades. Merci. Des bonnes blagues misogynes, des bonnes blagues régionales, des bons accents, des bonnes moqueries. C'est tout ce petit plus Radio Nova ce matin. Chez vous, rappelez-vous, la blague de la femme de l'escargot, la blague
du sanglier.
Et vraiment, c'est que du plaisir, que du bonheur. À tout de suite. Qu'est-ce que c'est?
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi? Ah.
Il fait une chaleur dans cette émission.
Les photos, je suis en train de regarder les photos du livre Le 36 de Patricia Touranchot. Patricia Touranchot qui est cette journaliste légendaire et qui connaît comme personne le 36 Quai des Orfèvres, qui est le siège de quoi? De toutes les polices ou le siège de
non,
quoi
Non, de la PJ parisienne, de la police judiciaire parisienne.
Alors c'est là où était Maigret?
Oui,
le commissaire
bien sûr,
Maigret, bah, il était là, vous étiez proche, vous avez été la maîtresse de Maigret. Patricia Tourancheau, moi j'aime bien faire le cette audition, c'est au seuil et les jours. Histoire de poulet d'indique et de tueur en série, le 36 par Patricia Tourancheau. Il y a des photos extraordinaires, là, elle m'a montré quelques photos. Pardon.
Je vous en prie, oui, donc le 36, ben, le 36 va déménager, Patricia Tourancheau.
Ouais, au
ce livre-là est une manière de saluer le bâtiment du 36 qui est des orfèvres et ceux qui y travaillent. Mais il va déménager au 36 aussi.
Au 36 rue du Bastion, au Batignolles.
Donc dans le nord de Paris.
En fait, la PJ parisienne a voulu garder son numéro mythique, le 36, ils ont réussi. Bon, rue du Bastion, c'est pas mal aussi, hein.
Votre rue du Bastion, oui, 36 rue du Bastion. Ce sera une nouvelle adresse. Donc, ce livre-là est une manière de parcourir un peu l'histoire de ces dernières décennies, en fait, du 36. Vous avez couvert pour Libération, vous continuez pour Les Jours, ce qui se passe à la PJ. Mais vous parlez d'histoires qui ont fait, on va dire, le roman du 36, en quelque sorte, depuis longtemps. Il y a vraiment quelque chose de romanesque, en fait, dans ces histoires, ces multiples histoires que vous racontez. Est-ce qu'on se laisse séduire par ce côté-là, justement, avant toute chose, quand on travaille avec la PJ?
C'est un roman du réel, en fait.
Bien sûr.
Donc, moi, ce que j'adore là-bas, c'est le bâtiment, évidemment, absolument génial. Tout vieux, avec ses fils électriques, son lino usé, ses bureaux crades. Déjà, le bâtiment est génial, avec plein de coins, de recoins, de mansardes. On peut déboucher sur le toit, c'est super. Et des personnages truculents, quoi. Que ce soit les poulets qui travaillent à l'intérieur ou leurs indiques, comme la rouquine, une espèce de mère maquerelle.
Katia
la rouquine. Lucienne Goldfarb de son vrai nom, qui depuis 1947 au moins renseigne les poulets du Quai des Orfèvres au point de devenir auxiliaire de police. Et les grands flics de l'époque, Pierre Ottavioli, enfin des vieux, des mastodontes du 36, le disent, elle était auxiliaire de police, elle nous aidait pour piéger des gens. Elle se mettait avec son manteau de fourrure, des bijoux, elle montrait qu'elle avait du fric, quoi. Pour appâter des vendeurs de drogue, des vendeurs de bijoux, des resellers. Et elle montait dans les sous-marins de surveillance, en fait, les véhicules équipés avec des vitres sans teint pour voir à l'extérieur et faire des filatures. Et Katia Laroukine, en échange de ça, a eu la protection, en fait, pour monter un bordel, un premier petit bordel dans les années 50, et puis un plus grand bordel de 6 étages, je ne sais plus combien de chambres, une cinquantaine de chambres, au 10 bis rue du Débarcadère, Porte Maillot. Et elle a perduré, Laroukine, elle a continué ses activités dans les années 80, avec la bienveillance
de certains ministres.
Ah oui. Enfin, elle avait un avocat qui s'appelait Roland Dumas, qu'elle surnomme Duduche. Elles se sont arrangées. La Rouquine a quand même payé, alors ça je l'ai découvert en faisant les chroniques pour Les Jours et le bouquin, elle a payé, comme c'est une fan d'opéra. Donc Placido Domingo est son amie, elle parcourt le monde, la Rouquine, pour écouter les plus grands ténors du monde. Et elle a payé le discours d'investiture lors de la cérémonie d'investiture de Mitterrand en mai 81. C'est Katia Laroukine, la maquerelle, l'indicatrice, qui a payé le concert de Placido Domingo au Panthéon pour Mitterrand. Donc c'est hallucinant.
Et la petite histoire et la grande histoire se mélangent beaucoup dans ce livre-là. Notamment, elle a eu des problèmes pendant l'affaire Ben Barka, cette femme aussi.
Alors un petit peu. Elle est en fond de l'affaire Ben Barka. Disons que dans l'affaire Ben Barka, ce sont plutôt deux policiers de base de la Mondaine, la brigade Mondaine, donc qui surveillaient les établissements de nuit, les prostituées, etc.
Cabaret, la brigade Cabaret maintenant.
Le groupe Cabaret.
Le groupe Cabaret.
Voilà, qui existe encore. Il y a un chapitre dans le bouquin sur le groupe Cabaret. Je ne sais plus ce que je voulais dire.
On parlait de Ben Barka.
Oui, Ben Barka. Là, ce sont en fait deux policiers de la Mondaine qui ont enlevé Mehdi Ben Barka avec une voiture de la brigade. Alors, disent-ils, sans savoir pourquoi, c'était Souchon et Watteau, les noms de ces deux policiers, et ils l'ont fait pour le compte d'un agent du SDEC, donc des services de renseignement extérieur, Lopez, qui était en même temps chef d'escale d'Air France à Orly, et en même temps maqué avec les services de renseignement marocains. Et visiblement, apparemment, ils ont enlevé Ben Barka, dont on n'a jamais retrouvé le corps, pour le présenter, pour le faire interroger par des pontes des services de renseignement marocains qui sont venus à Paris spécialement. Et puis, ça a mal tourné et Ben Barka a disparu.
On ne sait pas où il est.
Et la Rouquine, là-dedans, oui, elle a peut-être joué un rôle pour essayer de capturer Ben Barka avant son enlèvement en fait à Paris. Et amener peut-être des explosifs.
On ne sait pas où il est, on sait quand même quasiment sûrement qu'il est tué par les services marocains. Quand même, oui.
Oui, non mais on n'a pas retrouvé le corps, c'est ça. Quoi.
C'est une histoire, Patricia Touranchot, ce livre, qui est aussi votre histoire avec le 36. Vous racontez que vous arrivez là-bas en 1990 pour couvrir ces affaires-là pour Libération. Oui. Vous racontez votre pot de départ de Libération où... Voilà, qui est devenu presque légendaire, parce que se mélanger les policiers, les braqueurs, les avocats, les magistrats, tous voilà pour votre pot de départ de Libération. C'est aussi oui. une grande partie de votre histoire à vous.
Ouais. Et un policier de la brigade criminelle, ex de la brigade criminelle, a apporté à mon pot de départ, il m'a apporté une bouteille de champagne marquée, c'est cuvée de la brigade criminelle, 36 Quai des Orfèvres. Je l'ai gardée comme une relique, je ne l'ouvre pas. Je la garde, elle est magnifique.
Mais racontez un peu comment vous êtes devenue proche, comment vous avez gagné la confiance un peu des gens là-bas.
Mais au fil des années, c'est-à-dire la première fois, moi j'arrive de province, je travaillais pour Libération à Lyon. Je débarque à Paris, je suis quasiment à poil, comme on dit. J'ai une recommandation et il se trouve que c'est Frédéric Pechenard qui deviendra un grand flic par la suite, au point d'être le grand patron de la police nationale en France. Et ce mec me reçoit au Quai des Orfèvres. Il est lecteur du Figaro. Il me dit, mais comment une gauchiste comme vous, enfin, Libération, vous allez traiter la police autrement que sous l'angle de la corruption et des bavures. Mais je dis, mais oui, bien sûr, moi, les enquêtes policières m'intéressent et tout. Et donc, il a fallu gagner sa confiance, montrer que je ne trahirais pas le off s'il me disait des trucs. Je ne les mettrais jamais dans sa bouche, nommément.
Le off, c'est les renseignements qu'on peut dire, mais qu'on ne doit pas citer en tant que journaliste. C'est ça.
Voilà. Enfin, c'est-à-dire, moi, je l'ai cité entre guillemets, mais sans citer son nom. Mm-hmm. Je mettais un enquêteur, je mettais un policier.
Un proche de l'enquête.
Un proche de l'enquête, et voilà, quoi. Et ce type m'a quand même... Il a joué le jeu, et il m'a ouvert les portes du Quai des Orfèvres, mais concrètement, c'est-à-dire qu'il m'a fait visiter ce premier jour de fin 90... le musée, par exemple, le petit musée caché de la brigade mondaine et la brigade des stupes, où ils entreposaient toutes les fouets, les godemichets, tout ce qu'ils avaient saisi dans les maisons closes et tout ça. Et là, pour les jours, j'ai revisité ce musée qui a déménagé, enfin, qui est toujours à la brigade de répression du proxénétisme, mais rue de Lutèce, c'est pas loin du Quai des Orfèvres, ils font toujours partie de la PJ parisienne. Et ce truc, c'est 25 mètres carrés, c'est un bordel miniature, quoi. Donc c'est génial, avec des objets, mais attendez, il y a quand même un truc hallucinant. À l'intérieur de ce petit musée caché, il y a un album, une collection de poils pubiens du roi René, qui était patron d'un gros club échangiste. Et il a fait ça sur le modèle de l'herbier, avec les petites touffes de poils, le prénom de la fille, d'où elle est issue, etc.
Et pourquoi ça finit chez les flics, ça?
Ben, parce qu'il a été saisi, en fait, dans le tiroir du roi René, quand il a été arrêté. Tout ça.
Enfin,
qu'est-ce qui frappe le plus quand on entre là-bas, quand on vous ouvre les portes dans l'atmosphère? C'est tendu, c'est plutôt chaleureux? C'est quoi les rapports entre les flics eux-mêmes, dans les couloirs?
Bah ça va, ça vient, c'est très animé, quoi.
Vous parlez de grands moments de tension, parfois pendant plusieurs mois, et puis il y a les troisièmes mi-temps, quand l'affaire se termine, quand il y a un dénouement, il y a les troisièmes mi-temps légendaires, dans les lieux mêmes.
Dans les lieux mêmes. Alors là, ça peut, il y a même des filles qui viennent parfois, il y a des pots avec, d'ailleurs, Gainsbourg.
Voilà, Gainsbourg, il y a tout un chapitre sur Gainsbourg.
Voilà, tout un chapitre, parce que Gainsbourg faisait partie des VIP, enfin, qui venaient voir les poulets, qui adoraient être dans le bureau de Maigret, justement, bureau du patron de la brigade criminelle, et aussi qui venaient s'envoyer des 102, comme il disait, des doubles 51, des doubles pastis 51, et discuter, rigoler, fumer ses gitanes avec les policiers, se faire ramener le soir de boîte.
Il y a du stop flic, ça s'appelle.
Du stop et les flics.
Et vous dites poulet, on dit encore beaucoup poulet. Eux-mêmes, ils aiment bien l'appellation poulet ou pas?
Ouais. Le poulet, pourquoi poulet? Parce que l'emplacement du Quai des Orfèvres, avant, c'était un marché aux volailles.
Ah, on dit,
et c'est pour ça qu'on les a fait poulets. Ouais. Alors, les poulets, c'est quand même plutôt ceux de la PJ parisienne, à l'origine. Après, on l'a un peu étendu, mais... Oui, ils aiment bien flics, ils aiment bien aussi.
Il y a un glossaire quand même à la fin de votre livre. Qu'est-ce que c'est qu'une bouchonneuse?
Ah, c'est Bah, c'est une dame de compagnie qui est payée au bouchon dans les bars à gogo, quoi.
Qui fait boire les... Oui, c'est-à-dire, suivant le nombre de bouteilles de champagne, elle apporte ses bouchons, ouais. Paraît-il.
Ouais. Et qu'est-ce que c'est qu'un papy crayon?
Un papy crayon. Alors, c'est un vieux commandant. À la crime, par exemple, il y a les vieux commandants qui tiennent le bureau, des gommes, des crayons, des véhicules, des moyens radio, des moyens matériels. Et qui les dispatchent, on les appelle les papy crayons parce qu'ils s'occupent des gommes et des crayons, mais aussi de trucs plus importants, quoi.
Et voilà, dans ce livre, dans le 36, il y a toute une série d'anecdotes, mais aussi des histoires qui ne sont pas toutes terminées d'ailleurs. Il y a l'histoire du grêlé dont on avait eu l'occasion de parler ici, de ce criminel qui est toujours en fuite, qui est
un tueur assassin. En série, ouais. Qui a commencé en 86 par tuer une petite fille de 11 ans et la violer, qui a continué avec des petites filles en changeant de mode opératoire. Comme il a une peau assez abîmée, il a été surnommé le grêlé. Et en fait, la traque continue 31 ans après. Il y a toujours des poulets de la brigade criminelle qui s'en occupent, quoi.
Et vous racontez comment, dans ce type d'affaires, les modes d'enquête évoluent, notamment l'ADN, l'utilisation de l'ADN.
Oui, qui a beaucoup aidé.
C'est une histoire en soi, évidemment. Ouais. Les grands noms du 36, qui est des orfèvres, parfois se retrouvent à la tête de services de sécurité dans des grandes boîtes privées. Comment ça se fait, ça?
Alors, énormément. Bah, énormément d'anciens du 36, en fait, convertissent dans le privé, sont payés très cher en fait pour avoir des renseignements pour la sécurité des boîtes, donc Bolloré, Veolia, Casino.
Donc ils gardent des contacts dans la grande maison.
C'est ça.
Patricia, on pourrait vous écouter pendant des heures, mais je dois rendre l'antenne, on dit.
Et quand même, je voulais vous dire que en ce moment, les gens qui s'abonnent pour un an au jour ont le livre le 36 en cadeau.
Oui, mais enfin, c'est bien de l'acheter aussi, Patricia Tourancheau.
C'est bien aussi d'aider les jours, quoi.
Patricia Tourancheau, le 36, c'est aux éditions Le Seuil et les Jours. Merci beaucoup,
merci.
Patricia.
Merci.
Vous écouterez pendant des heures.
7h, 9h, plus près de toi. Ça va ?
Plus près de toi.
Édouard Baer.
Grâce à cet habillage élégant, on n'en sait plus sur le catch. François Rollin, vous avez la grande générosité dans les 2 minutes qui nous restent de proposer un jeu.
Oui, le jeu de ce matin, c'est un quiz musical qui va permettre à un auditeur ou une auditrice de gagner son poids en eau du robinet. Hein, il lui suffira de venir en prendre livraison ici au bar de l'Open Space.
C'est gagnant-gagnant.
C'est un beau cadeau.
Ah oui.
Alors, je vais vous chanter. Alors, appelons, nous avons quelqu'un en ligne ?
On avait appelé pendant la pub.
Allô. Alors,
on a pris le premier.
Oui, bonjour. Quel est votre prénom ?
Adèle.
Bonjour Adèle. Alors, je vais vous chanter 3 morceaux hyper connus de rock-pop anglo-saxonne. À vous de m'en donner les titres. Et alors, une seule bonne réponse vous suffit pour gagner. Hein ? Alors, attention, premier titre.
Pas facile.
Alors ?
Oui. C'est pas un titre des Beatles ?
Non, c'était We Can Get Over It par le groupe Scott Wee Tandy.
J'avais reconnu. Ouais.
Deuxième titre. Alors ?
C'est un peu le même que tout à l'heure, non ?
Non.
L'insolence d'Adèle.
Oui,
c'est Break One of the Bludge de Stephen Wilson.
Hein,
Et le dernier, alors, il est plus facile quand même pour vous permettre de gagner. Alors,
ça nous rajeunit pas.
C'est Dreading Stick par les Pembleton Brothers.
Dommage, François, c'est Adèle a perdu.
Adèle a perdu, malheureusement.
Pas d'eau du robinet pour Adèle ce matin.
L'eau du robinet, remise en jeu.
Merci d'avoir participé. C'est aussi la fin de l'émission. Très belle journée à vous. Thierry Paret, les 30 Glorieuses. À demain. Merci, avec plaisir.
Édouard Baer.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.